Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sein du grand dialogue de ce lundi, un événement bien grave. Il s'agit des affrontements ce week-end entre les Peuls et les Bamana, entre les Bamara, donc dans la commune de Djoura, cercle de Ténénkou. Des affrontements qui ont fait, selon des sources locales, 7 morts et 7 blessés. Ces affrontements meurtriers seraient liés à une histoire de vol d'animaux. Au moment où je vous parle, la situation semble relativement calme à Ténénkou, mais la population est inquiète, elle qui ne peut ne pas se rappeler les affrontements du mois de mai qui ont fait une trentaine de morts. Pourquoi les violences intercommunautaires deviennent si récurrentes avec les événements de samedi dernier? Doit-on penser que les autorités n'ont pas su les événements du mois dernier? Donc, doit-on penser que les autorités n'ont pas su tirer les enseignements des événements précédents? Que faire pour éviter que ce genre de conflits meurtriers ne se reproduisent? Ces questions et bien d'autres, nous allons les adresser à nos invités au nom de trois. Il s'agit de Makan Doumbia, il est le préfet de Ténénkou, il sera en ligne. Nous avons ici, présent dans ce studio, Temuré Tchoulenta, qui est le président de l'association des ressortissants de Ténénkou. Enfin, notre troisième invité, lui aussi, il est en ligne. Il s'agit d'Eli Diko, il est sociologue. Ce débat vous est présenté par Seydou Fomba.
Le grand dialogue.
Bienvenue à toutes et à tous. Des morts et des blessés encore dans le cercle de Ténénkou au cours d'affrontements entre les communautés Peul et Bamara. Comment se fait-il que Peul et Bamara en soient venus aux armes une fois de plus, donc après les événements meurtriers d'il y a moins de 5 mois? Nous posons la question en premier lieu à vous, M. Temuré Tchoulenta, vous qui êtes le président de l'association des ressortissants de Ténénkou.
Bien, merci M. Fomba pour l'honneur que vous nous faites de nous associer à ce débat. Et pour évoquer cette question, je crois pouvoir dans un premier temps regarder les événements qui se sont déroulés ce week-end dans la commune rurale de Kareri, regretter ce qui est arrivé. Et ensuite, à mon nom personnel et au nom de l'Association pour le développement du cercle Ténénkou, m'incliner devant les morts et ensuite adresser à leurs parents nos condoléances. Il y a aussi des blessés à qui nous souhaitons prendre l'établissement. Ceci dit, c'est une question extrêmement importante que nous allons aborder. Mais en réalité, en parlant de Ténénkou, je parle du Mali. Parce que le Mali, c'est un peuple, un pays meurtri depuis déjà 2012. Et ce qui s'est passé à Ténénkou s'est passé quelque part dans d'autres localités du Mali. Et là où un Malien est agressé, là où un Malien est meurtri, là où un Malien est mort, là où un Malien est blessé, tous les Maliens doivent se sentir solidaires. Il est difficile d'avoir la paix dans une partie du Mali sans que ce soit l'ensemble du Mali qui est en paix. Revenant à votre question, je crois pouvoir dire que les conflits interethniques sont aussi un peu partout. Mais pour ce qui est arrivé ces derniers temps, d'abord le 1er mai à Malemana et à Falada, c'est le village où ces affrontements ont eu lieu le week-end, il faut les adosser ces événements à la crise. De quoi s'agit-il? La crise sécuritaire au Mali a touché l'ensemble du Mali d'une façon ou d'une autre. Mais il arrivait que dans son traitement, pour ce qui est de ce que nous pensons, il y a eu une attention plus dans une certaine partie du Mali qui, d'une façon ou d'une autre, n'était pas forcément plus affectée que la bande, disons, entre Gundam et Niono, c'est-à-dire ce que les militaires appellent le faisceau ouest, c'est-à-dire la frontière entre le Mali et la Mauritanie. C'est-à-dire, c'est vrai, nous n'avons pas la politique, les moyens de notre politique en matière de sécurité. Et il nous est arrivé, comme d'autres l'ont fait en son temps, en invitant notre pays à sauver, il nous est arrivé, nous aussi, de demander à d'autres de venir nous accompagner dans la conquête de la paix. Ainsi, les caméras à l'international, les médias à l'international, peut-être quelque part aussi lié dans un premier temps au fait que c'est au grand nord du Mali que les affrontements ont commencé de façon plus visible. Alors le secours au grand nord a été privilégié. Mais peut-être ne s'est-on pas rendu compte que, pas seulement cette année, aux dernières crises déjà des années 90, la bande de Tinenko a été enflammée plus que partout ailleurs. Et pire, quand il y a eu des dédommagements, les populations qui ont été victimes par rapport à des morts, par rapport à des blessés, par rapport à des vols d'animaux, n'ont jamais été indemnisées. À la limite, c'est les victimes, en tout cas des populations de Tinenko en son temps, qui ont, elles, été alors indemnisées. Alors effectivement que, j'allais dire, c'est alors effectivement ceux qui ont causé le tort, qui ont été indemnisés pour le tort causé à eux autrement, mais ceux-là même qui ont causé le tort aux populations de Tinenko, alors celle de Tinenko n'a pas été.
Monsieur Toulenta, nous reviendrons à vous dans un instant.
Je vous en prie.
Le temps de nous rendre à Tinenko pour joindre le préfet de Tinenko, Makan Doumbia. Monsieur Doumbia, bonsoir. Alors, dites-nous, il y a eu quand même les affrontements du mois de mai. Alors, pouvait-on s'attendre que quelques mois plus tard, que Pearl de Bamara en vienne aux mains, aux armes encore?
Bon, d'abord, je remercie tous les participants à ce débat, parce que le débat est tellement intéressant que, malgré que je n'ai été informé que ce matin de façon un peu tardive. Mais l'importance que j'attache à ce débat fait que je ne pouvais pas décliner ma participation à ce débat. Ceci dit, je dis que à partir des événements du mois de mai, on pouvait dans un premier temps ne pas s'attendre à des situations que nous sommes en train de voir, parce que les différents ministères, le gouvernement du Mali, à travers les différents ministères, s'est profondément intéressé à ce problème-là, si bien qu'il y a même eu un forum intercommunautaire à Yono. Et à l'issue de ce forum-là, on a établi une convention. Il y a eu une convention dont les signataires représentaient presque toutes les franges de la population de localités en question. Mais dans un second temps, je peux dire qu'il fallait s'attendre aussi à des situations comme ça, parce que pendant ce forum, pendant toutes les réunions que nous avons eues à tenir, les vraies, vraies victimes même n'étaient pas représentées dans ces forums-là, dans ces réunions-là.
Alors, monsieur le préfet, comment expliquer cela? Comment expliquer l'absence des représentants des vraies victimes, comme vous le dites?
Bon, parce que l'association, quand même, l'association des ressortissants des différentes localités étaient présentes, mais les peuples dont il est question, ceux qui sont morts sur le terrain, les parents n'étaient pas présents. Les parents n'étaient pas présents parce que la plupart des victimes n'étaient même pas connues. On avait procédé à l'inhumation de ces victimes-là sans pourtant bien les
identifier.
Savoir leur... Voilà. On les a identifiés, mais sans pourtant savoir d'où ils viennent réellement. C'est ça le problème, parce que si on en croit aux différents renseignements qui nous parviennent, c'est que ce sont les actions actuelles-là sont nourrie par une idée de vengeance ou bien de représailles dirigée contre les communautés peules.
Autrement dit, malgré la convention, il y avait l'esprit de vengeance qui était là.
La communauté Bambara de la localité. Mm-hmm. Aujourd'hui même, au moment où je suis en train de vous parler, aujourd'hui là, il y avait des affrontements dans dans l'espace inter au village à deux niveaux. Entre Djoura et Kologri, il y avait des tirs qu'on a entendus aujourd'hui là-bas. Et entre Djoura et Sirakoro, il y avait des tirs aussi qui ont été entendus là-bas. Et si j'en crois réellement aux informations qui me sont parvenues, il y a même eu un mort aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que c'est des situations de représailles qui sont dirigées contre les communautés Bambara. Bon, ça c'est un peu ça. Alors, les animaux qu'on est en train d'enlever. Aujourd'hui où je vous parle, le nombre de têtes de bovins enlevées dans ces localités dépasse 700 têtes. 700 têtes ont été enlevées. Et aucun de ces animaux n'a jusqu'à présent été retrouvé.
Alors, dites-nous, monsieur le préfet, ce n'est pas habituel, les années précédentes, on n'est pas arrivé quand même à ce chiffre-là.
Non, les années précédentes, on n'est pas arrivé à de tels chiffres. Et l'événement de samedi passé, c'est dû à des vols de bovins, les petits ruminants, moutons, bovins qui ont été enlevés. Bon, les Bambara se sont réunis pour aller à la recherche de ces animaux. Au retour, ils sont tombés dans une embuscade et il y a eu des échanges de tirs. Il y a eu des tirs, si j'en crois aux renseignements qui m'ont été rapportés, il y a plus de, il y a eu 7 morts. Et les blessés ont été évacués sur Nyono. Je me suis entretenu d'ailleurs à ce propos avec le préfet de Nyono qui m'a confirmé effectivement que les forces de sécurité de ce côté ont fait évacuer les blessés au niveau de Nyono. Où ils ont été pris en charge. Mmh. Donc c'est pour vous dire que les négociations, les activités de conciliation ont bel et bien été menées, mais à mi-chemin. Parce que ce qui. L'association des Peuls était présente, l'association des ressortissants de tout le Kareri était présente à ces négociations. Présente à ces négociations.
Allez-y, oui.
Et toutes les autorités, il y avait les élus, il y avait des députés de la localité, il y avait aussi des ministres représentant le gouvernement qui étaient venus pour la circonstance. On a tout mis en œuvre pour trouver un consensus, pour trouver à mettre sur du papier un consensus signé de toutes les parties prenantes. Mais en réalité, si aujourd'hui on assiste à de telles situations, cela veut dire que les acteurs, tous les acteurs n'ont pas joué leur rôle. Si tous les acteurs ont joué leur rôle, on ne devrait pas assister à la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Alors, monsieur le préfet, vous restez donc en ligne. On va vous retrouver dans un instant. Nous allons à présent joindre Brahima Eli Diko, qui est sociologue. Dites-nous, monsieur Diko, après les affrontements de mai dernier, il y a eu des négociations, il y a même eu une convention. N'empêche, voilà, samedi, ce week-end, des affrontements, mercredi encore. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, bonsoir. Merci de m'avoir associé à ce débat intéressant. Bon, on en avait discuté. Vous savez, dans le centre du Mali, même partout, des frustrations sont énormes. On signe des accords, mais on pose pas d'autres actions concrètes. C'est très simple de rebouter quelques personnes lors d'un forum, et puis bon, de dire aux gens, on appelle le calme, on fait une convention. Mais le problème demeure. Vous savez que même avant l'indépendance, les conflits agriculteurs et éleveurs étaient des conflits qui existaient. Donc on utilisait les mécanismes traditionnels de prévention et de gestion de conflits. Mais ces mécanismes ont été éprouvés. 50 ans, chaque année, c'est le même problème entre éleveurs et sédentaires, enfin, entre agriculteurs. Et maintenant, ce qui s'est passé à Malemana à l'époque, c'était un peu le paroxysme de ces frustrations. Donc moi, je pense que si les accords ont été signés en cas de convention et que finalement on a une recrudescence de conflits, c'est parce qu'à un moment donné, la justice n'a pas été rendue. Lorsque les gens sont frustrés, il y a des victimes de part et d'autre. Lorsque les responsabilités ne sont pas situées et qu'on se contente d'appeler les gens, on les associe, on fait des débats, on a beau appeler même 1000 ministres avec tout ce qu'on veut comme discours, ça ne marchera pas. Il y a eu des exactions, des choses ont été commises de part et d'autre, toutes les responsabilités, punir les gens. Et ce n'est que comme ça qu'on peut espérer que les esprits se calment. Et cela n'a pas été fait. Et donc, ce sont des frustrations qui font que les gens continuent en fait à essayer de régler eux-mêmes les affaires. Lorsque la justice n'est pas rendue, des gens, dans un contexte de prolifération des armes légères, vont, dans ce contexte-là, s'armer et rendre eux-mêmes justice, ce qu'on peut appeler un peu tatraberie. Donc, c'est ce qui se passe en réalité. Mm-hmm. Et je pense que si l'État s'implique à fond et qu'on essaie de situer les responsabilités, on fait des enquêtes indépendantes, qu'on punit les coupables, on essaie de restituer les responsabilités, ça permet d'aller de l'avant. Mais tant qu'on ne va pas faire ça, il y aura d'autres événements plus malheureux que ça, et ça, je peux vous garantir. Moi, j'ai fait des enquêtes dans cette zone au mois de mai jusqu'à Diabali. Je viens de quitter Douazan pour le moment, qui sont hier seulement.
Alors, M. Dico, nous aurons l'occasion d'évoquer tous ces aspects. Alors, nous reviendrons sur ces aspects prochainement. Nous allons à présent observer une courte pause avant de poursuivre ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La situation sécuritaire dans la région de Mopti, précisément dans la commune, dans le secteur de Ténénkou, suite aux affrontements ce week-end même, qui ont fait 7 morts et 7 blessés. C'est de cela que nous parlons dans le grand dialogue de ce lundi. Alors, nous avons dit qu'il y a eu ces premiers affrontements, c'était donc au mois de mai, qui ont fait une trentaine de morts. Alors, après ces affrontements, il y a eu des négociations, il y a même eu ce qu'on appelle une convention. Alors, nous sommes devant les faits accomplis. Le pays de Bambara, encore, prennent les armes, il y a des victimes. Alors, il va falloir de toute façon négocier. Mais est-ce qu'il ne va pas falloir savoir négocier cette fois-ci? Je pose la question à vous, Timoré Tilenta.
Oui, je voudrais dire bonsoir à mon préfet, à M. Dico, dont les avis nous éclairent, nous qui nous trouvons plutôt à Bamako, même si sur le terrain nous avons des informations certaines. J'allais dire, en fait, pour rejoindre les deux prédécesseurs, que nous, du côté de l'Association pour le développement de Sekeltenekou, n'avons pas été invités à la grande messe de Nyono. Nous n'avons pas été associés au dialogue. Nous le regrettons.
Vous l'appelez grande messe parce
absolument,
que...
je dis grande messe dans la mesure où j'ai cette conviction que ce n'est pas quand... avant, on ne peut pas négocier avant que le feu ne s'éteigne, avant que les morts soient inhumés. Et d'ailleurs, le préfet qui est sur le terrain dit que les vrais auteurs n'étaient pas effectivement sur les lieux. Donc dans ce cas, il nous a semblé en son temps qu'il y a une certaine précipitation à aller rapidement sur le terrain, à rencontrer tous ceux qui étaient prêts à venir, à inviter tous ceux qui pouvaient venir. Mais dans la mesure où les auteurs n'étaient pas là, c'est évidemment que effectivement c'est déjà raté. Bref, on pleure les morts, c'est regrettable. Maintenant, je voudrais dire que dès que... Alors, on ne prend pas le temps de savoir davantage. Dès qu'effectivement, on ne touche pas ceux qui sont censés accompagner la paix. Alors, tous les ministres de Bamako pourront partir. Tous les députés de la République pourront aller sur le terrain. Mais les résultats seront maigres.
Avez-vous le sentiment qu'on banalise un peu les choses comme si ça essaie de remplir une simple formalité?
Le mot est fort. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous avons eu la chance d'être reçus, nous, Association de développement de Sekeltenekou, par M. le Premier ministre. C'était le 19 janvier. Et avec la plus grande diligence, M. le Premier ministre nous a reçus. Et nous avons, en son temps, il nous a mis en contact avec 3-4 de ses ministres avec lesquels nous avons travaillé dès le lendemain. Et nous avons proposé à messieurs les ministres un plan d'action. Sur ce plan d'action, pour ce qui est de la sécurité, 3 éléments. Renforcer le dispositif sécuritaire à Ténécouville. Et je voudrais, de passage, saluer la bravoure dont ont fait preuve les soldats qui sont à Ténécouville par 2 à 3 fois. Les assaillants sont venus pour agresser la ville et les ont repoussés vigoureusement. Donc, félicitations à eux, bravo à eux. Mais nous avons proposé en plus de ça 2 points que nous estimons sensibles, où il faut absolument une base militaire. C'est Ndjoura, précisément. c'est entre Ndjoura et Léré, un village qu'on appelle Dungra, où, je rappelle, il y a eu le 18 mars 2013 déjà 20 morts par balle et qui ont été enfouis dans un puits. Et personne, j'insiste pour dire, et aujourd'hui encore, aucune autorité ne s'en est occupée. Donc dans ce cas, sur le terrain, en réalité, on a laissé le terrain aux adversaires. Et les trois propositions que nous avons faites, c'est le terrain quoi, encore une fois, j'ai dit, je salue les soldats, mais en son temps, depuis le 10 janvier, il n'y a pas eu de base militaire à Ndjoura, il n'y en a pas eu à Dungra. Donc, étant donné que nous savons ce qui se passe sur la frontière mauritanienne, c'est aussi Nampala, c'est à côté. Donc, en fait, cette bande-là, en notre sens, n'a pas été sécurisée à hauteur de risque. Je ne dis pas banaliser. Peut-être n'avons pas les moyens de le faire. Peut-être, effectivement, les adversaires étaient plus forts que nous. Parce que je me méfie de penser, par rapport à certaines attaques, que ce soit des locaux comme tels. Je pense, nous pensons, que c'est d'autres forces du mal qui s'allient à des locaux et qui agressent, effectivement, qui participent à l'agression. Mmh. En tout cas, pour ce qui est des tueries en masse. Bon, bref, nous pensons pour notre part, il est important de sécuriser les lieux et nous n'avons pas l'impression qu'on l'a suffisamment sécurisé. Mmh. Et pour terminer ce chapitre, il était difficile de croire que par rapport à tout ce qui s'est passé à Malemana, qu'un mois après, deux mois après, que quelque chose se passe de si grave. Ça veut dire qu'on a dégarni effectivement le dispositif et ce qui est arrivé est arrivé.
Nous partons encore pour Tenenko pour retrouver le préfet Makan en Doumbia. Dites-nous, monsieur Doumbia, il y a eu donc des négociations, des pourparlers, une convention. On peut dire que tout cela quand même a échoué dans la mesure où encore des affrontements sont signalés. Est-ce que vous n'allez pas faire des propositions en vous inspirant de ce qui s'était passé au cours de ces rencontres? Autrement dit, est-ce qu'il ne va pas falloir tirer les enseignements par rapport à la façon dont ces négociations ont été organisées, ces négociations qui ont donc finalement échoué?
Bon, faire des propositions là, je pense que c'est là tout à fait normal. Bon, l'administration est toujours là pour chercher des solutions aux problèmes qui pointent. Donc, nous ne pouvons pas ne pas faire des propositions, mais est-ce que nos propositions seront les meilleures? Parce que à partir du moment où les questions sont traitées à d'autres niveaux, nous pouvons faire des propositions à notre niveau ici, mais en réalité, moi, je trouve que, étant donné qu'il y a des possibilités de toucher certaines personnes, parce que même sur les lieux du forum, là, l'ex-maire de Sossobé a bel et bien offert ses offices pour servir de canon pour pouvoir toucher certains personnages nébuleux qui puissent vraiment déclencher une véritable négociation. Mm-hmm. Bon, avec ces assaillants-là. Parce qu'il faut se dire, ce n'est plus seulement les pelles-là, ce n'est pas les pelles seulement qui sont en train de faire ces exactions-là. Il y a de la façon dont les assaillants sont en train de mettre la situation sécuritaire au défi, ça veut dire que il y a des situations beaucoup plus aguerries, beaucoup plus averties en matière de situation de ce genre. Mm-hmm. Que peut-être que nos forces de sécurité, ça, moi je suis actuellement arrivé à cette conclusion. Mm-hmm. Parce que à Tenenko, il y a deux régiments militaires, enfin il y a deux détachements militaires. Il y a le détachement militaire de la région militaire de Ségou qui est à Tenenko, Il y a le détachement militaire de la région militaire de Mopti qui est à Telenkou. Mais malgré la présence de tout ça, on a exigé, on a demandé au gouvernement de mettre une force d'interposition à Djoura. C'est-à-dire, il y a eu donc un détachement de Béret Rouge qui était venu à Djoura. Mais avec l'événement qui s'est passé à Nampala, ceux-ci sont venus à Telenkou pour renforcer la sécurité à Telenkou. Et depuis lors, ils sont restés à Telenkou. Bon, donc toute proposition qu'on peut faire, c'est qu'il serait mieux maintenant d'ouvrir des négociations pour voir qu'est-ce que ces anciens-là veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et si on est en possession de ce que ces gens recherchent, ben, le gouvernement procédera à une analyse approfondie de ces de doléances. Ce que le gouvernement peut prendre, prendra. Ce que le gouvernement ne veut pas prendre, sera dit que bon, cela n'est pas possible. Et de part et d'autre, je pense que peut-être la situation pourra être décantée et puis éviter ces séries de tueries à la longueur du temps.
Alors, cela est certainement.
Moi je pense que si des négociations sont possibles, il vaut mieux aller dans ce sens que l'option militaire. L'option militaire a fait ses preuves. Il y a deux ou trois détachements militaires qui sont à Telenkou. Mais malgré cela, même ceux-là, ils sont les cibles des embuscades, les cibles des tirs des ASEAN. Nous avons perdu tout récemment cinq de nos vaillants militaires. Bon, donc, ça veut dire que même si la solution militaire est efficace, elle a des limites.
Alors, monsieur le préfet, vous allez donc rester en ligne.
La localité de Telenkou est très particulière. Une fois que l'hivernage atteint un certain niveau, la terre devient marécageuse et les véhicules militaires ne peuvent pas évoluer. Tu sors avec le véhicule s'embourbe et tu deviens le cible des tirs.
Alors, monsieur le préfet, nous voyons bien que la situation est loin d'être simple. Nous aurons l'occasion de l'évoquer davantage dans les minutes à venir. Nous allons joindre Brahima Eli Diko, les sociologues. Alors, monsieur Diko, l'option militaire ou les négociations, faut-il choisir entre ou alors il faut combiner les deux?
Les solutions sont bonnes à prendre. Dans tous les cas, l'option militaire a ses limites. On ne peut pas déjà être asymétrique pour pouvoir utiliser les militaires. Il faut savoir où est-ce que les gens sont tirés. L'ennemi, c'est n'importe qui. Hein. Ça peut être les villageois du coin, ça peut être le biscuit qui te vend en fait, quelque chose. Moi, je pense qu'il faut d'abord rendre la justice. Il y a des frustrations, il faut faire des enquêtes. Déjà, sur la base de ce qui a été fait à Malimana, ce qui vient d'être fait, on peut rapidement fixer les responsabilités, identifier le coupable et sanctionner qui le doit. À chaque fois, il faut que la justice soit rendue. Si la justice n'est pas rendue par l'État, les gens vont se rendre eux-mêmes la justice parce que grâce à la prolifération des armes légères, chacun peut s'armer et puis aller voir son ennemi et régler son affaire. Et cela ne fait qu'envenimer en fait, la situation. Et on ne peut assister à la récupération de la situation. Maintenant, l'option militaire n'est pas écartée. Dans tous les cas, chaque fois que l'État est absent quelque part, la nature ayant horaire du type, la nature est stable. On parle des militaires, des camps, mais ces gens-là sont cantonnés. Moi, je regrette que les militaires meurent par-ci, par-là, mais en réalité, quand vous regardez la situation de la zone, c'est une zone fortement intéressée, comme disait tout à l'heure l'intervenant. Et puis vous allez, par exemple, à Kémasna maintenant, vous prenez une finance pour aller à Diabrabé, jusqu'à Dia, après Tenimpou. Mais si vous avez des véhicules, c'est pas adapté. Bon. Donc déjà, les militaires, même pour pouvoir travailler dans ces zones-là, soit ils sont complètement détachés dans des zones conflictogènes, et après ils ont d'autres moyens de transport qui sont différents des voitures habituelles. Mais dans tous les cas, il faut, je pense, d'abord collaborer avec les populations. Les gens ont l'impression d'être abandonnés. Quand vous faites les enquêtes dans ces zones-là, les gens disent que l'État n'est pas là. Bon.
Maintenant, ça, c'est ça. Mais après, l'autre solution, il faudrait que certains représentants de l'État changent, je pense, de comportement. Parce que beaucoup de conflits locaux qui sont dans la région de Mobutu ont été envenimés par certains gendarmes et par certains préfets. Le préfet va dire que c'est faux, mais c'est tout à fait la vérité. Il y a des exemples concrets qu'on peut donner. Donc, cette attitude n'est pas rendue. Les frustrations vont continuer et on ne peut rien. Qu'on fasse des forums, même si on se fait un forum, ça servait à très peu de choses. Il faut que la justice, il faut que redéployer l'armée et il faut mettre à la disposition de l'armée des moyens. Vous allez à la gendarmerie des masses, de quel massacre, vous n'allez pas trouver un seul véhicule qui fonctionne. Comment vous voulez que la sécurité soit assurée dans ces conditions où il y a très peu de personnes déployées?
Oh, on a tout compris, on pense que les auditeurs aussi l'ont compris. Studio Tamani, nous allons nous retrouver pour la suite de ces débats dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Les affrontements de ce week-end dans le cercle de Ténégou, c'est de cela que nous parlons dans le grand dialogue de ce lundi. Alors, à présent, cette question à vous, Témoré Tulenta, vous qui êtes le président de l'association des ressortissants de Ténégou. Il est évidemment question de l'ouverture d'une enquête judiciaire pour identifier toutes les personnes impliquées dans des actes, dans ces actes de violence. Et pensez-vous personnellement que ces enquêtes vont aboutir?
Permettez-moi de mettre des doutes. Puisque en réalité, ce que nous cherchons, c'est la paix. Cherchant la paix, si nous ne disons pas la vérité, nous allons aggraver alors effectivement la situation. Et je dis que depuis que les attaques ont commencé à Ténégou, et je voudrais rappeler ici que la première attaque de la ville de Ténégou date de mars 2012 déjà. À cette date, on ne sait pas le nombre de morts, que ce soit des militaires en groupe, que ce soit des civils ou des assassinats ciblés. Dans le cercle de Ténégou comme dans l'environnement, du côté de Yorou, comme du côté de Niono, à cette date, et depuis 2013, je dis bien, j'allais dire même depuis 2012, je n'ai pas appris effectivement qu'il y a eu effectivement une enquête officiellement engagé. Et si c'est le cas, il n'y a pas eu de résultat pour un seul cas, en tout cas porté à notre connaissance. Le cas le plus emblématique, comme je le dis, c'est celui de Ndioura, enfin de Doungoura, où 13 Maliens, 13 sous-traitants maliens, depuis le 18 mars 2013, sont encore dans un puits. Aucune enquête n'a été engagée à cette date à notre connaissance.
Les autorités sont-elles au courant de cette affaire?
Nous avons, tout le monde a été informé. Je vais dire, tous les premiers ministres ont été informés, tous les ministres de la réconciliation ont été informés, tous les ministres de la défense ont été informés, tous les ministres de la sécurité ont été informés. Et je le dis parce que j'ai été moi-même. Mais nous n'avons pas touché le premier ministre parce que nous pensons que le premier ministre, les premiers ministres sont là pour conduire l'action gouvernementale. Donc, pour appliquer la politique du président de la République, je suppose que elles ont dû informer le président, mais dans tout le cas, c'est à ces autorités de faire le boulot. J'ai dit encore une fois, tout ce personnel-là, depuis 2012, il n'y a pas un seul ministre de ce secteur-là que n'ont pas touché. Et aujourd'hui encore, un sous-préfet ne s'est pas déplacé pour savoir ce qui s'est passé. La seule fois qu'une autorité malienne s'est déplacée, c'est derrière l'AMINUSMA. Parce que quand nous avons touché l'AMINUSMA, en 2014, l'AMINUSMA a dépêché une mission pour aller à Doungoura. Et comme nous étions en contact avec la gendarmerie a été avec effectivement l'AMINUSMA. Donc la gendarmerie, si elle a engagé des enquêtes, nous n'avons pas été informés et dans tous les cas, il n'y a pas eu de personnes arrêtées par rapport à ça. Donc il le faut, pour reprendre le slogan d'Ico, il faut bien que justice soit faite. Mais pour que justice soit faite, il faudrait bien mettre la main sur effectivement l'auteur. Pour que l'auteur soit saisi, il faudrait bien le poursuivre. S'ils ont été poursuivis, ils n'ont pas été encore attrapés. Et ça m'étonnerait que demain matin, alors effectivement des gens soient arrêtés. Et pire, par rapport déjà à Malemana, quand il y a des exactions, quand il y a des tueries, ceux qui ont été alors effectivement arrêtés et qui ont été amenés à la justice, selon mes informations, ça n'a pas été aussi loin que ça.
Monsieur le préfet de Ténégou, il faut que justice soit faite, que justice soit rendue. On parle effectivement de l'ouverture. Oui, vous voulez immédiatement réagir certainement au propos de M. Tulenta.
À ce niveau, je voulais donner certaines précisions.
Allez-y.
Je ne sais pas, les 13 ou je ne sais pas combien qui ont été victimes, premièrement, le premier cas de meurtre là, je ne suis je n'étais pas encore
aux affaires,
à Ténéncourt, mais ce qui est sûr, ce qui s'est passé à Malimana, nous avons identifié certains auteurs qui ont été arrêtés et mis à la disposition de la justice. Ces personnes-là sont actuellement réparties entre les différents centres de détention et la justice est en train de faire son travail. Moi, je pense que, en tout cas, toute situation tendant à nous amener à identifier un des auteurs, nous, on n'hésite pas, on les arrête et puis on les met à la disposition de la justice. Nous avons procédé au moment à plus de à une trentaine d'arrestations et on a déféré toutes ces personnes-là devant la justice à Morty. Et ces gens, beaucoup d'entre eux sont dans les mailles de la justice actuellement, ils sont en détention et ils sont leur procédure est en cours. Ça, c'est le complément d'information que je voulais donner. Bon. En tout cas, même si l'option militaire n'est pas à négliger, il est bon qu'une option tendant à la négociation soit entamée parallèlement à l'option militaire pour que bon, vraiment ces tueries puissent s'arrêter. Vraiment. Ça, c'est ce que moi j'avais comme en tout cas solution à proposer. Essayer de déclencher une négociation avec ces affaires-là, si on arrive à les toucher. Et puis, comme ça, bon, si ceux qui les recherchent, si on sait ça, je suis sûr et certain qu'il y aura une certaine accalmie. Sinon, les forces de sécurité sont en train de travailler. Les forces de sécurité veillent nuit et jour à Ténéncourt. Mais avec l'hivernage là, ça c'est une autre donne de la situation.
Donc elles n'ont pas la tâche facile.
Aucun véhicule militaire actuellement ne peut s'aventurer à faire des va-et-vient dans cette localité-là.
Voilà. Donc nous retrouvons Brema Eli Diko. Monsieur le sociologue, l'ouverture de l'enquête, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qu'il faut faire évidemment, mais c'est vrai, il y a eu quand même les affrontements de mai, il y a aussi, je crois savoir, une enquête. Alors ces enquêtes, pensez-vous qu'elles vont mener à quelque chose de concret? Monsieur Diko? Eli Diko, que nous avons des difficultés à pouvoir joindre. Je pense que il sera donc, la liaison avec lui sera rétablie dans un instant. Nous allons donc revenir dans ce studio pour retrouver Makandoumbia, pas Makandoumbia cette fois-ci, mais pour retrouver Temoré Tulenta, le président de l'association des ressortissants de Ténéncourt. Alors, Monsieur Tulenta, au centre quand même de ces conflits qui ont lieu donc dans le cercle de Ténéncourt, il y a certes les ressources humaines, mais d'aucuns quand même ajoutent à cela les décisions judiciaires rendues par le passé et qui auraient provoqué des frustrations. Êtes-vous d'accord avec cette manière de voir ce genre de conflit?
Absolument, dans la mesure où dans le Delta central du Niger, il est arrivé que l'école n'a pas prospéré. Les efforts fournis par l'État et quelques bonnes volontés n'ont pas toujours eu la réaction positive des populations, liée à plusieurs facteurs. Parce que je suis de ceux qui pensent que si les populations n'ont pas été à l'école, peut-être n'ont pas trouvé les ressorts nécessaires, les stratégies nécessaires pour se faire. Mais qu'importe l'état des lieux, c'est qu'effectivement ces populations n'ont pas été à l'école. Et quand on n'a pas été au savoir, ceux qui ont un certain savoir et qui l'utilisent à de mauvaises fins, alors vous en êtes les victimes. Rarement des décisions de justice ont été définitives dans le Delta. Rarement, alors effectivement, les populations se sont senties proches des autorités, toute autorité confondue. il y a lieu effectivement de réfléchir sur une nouvelle gouvernance, y compris la gouvernance juridique, pour que effectivement les uns et les autres puissent aller d'eux-mêmes à la justice et se sentir sécurisés. Il est très fréquent effectivement qu'on aille à la justice et que, pensant avoir sa raison, que cela tourne contre vous. Pourquoi ? Dans la mesure où le delta est très riche, c'est le terroir le plus riche. Et les codes d'honneur font quelque part que les populations sont prêtes à faire beaucoup de choses, à donner beaucoup d'argent, à donner beaucoup de bétail pour sauver leur tête, ou à la limite, elles aussi malheureusement, pour noyer même un frère. Donc l'un dans l'autre, je ne dis pas que les populations sont dans la sainteté, dans la mesure où, à mon sens, pour revenir derrière le cas de Ndioura, pour ce qui est de ce qui s'est passé ces derniers temps, ces populations qui ont vécu ensemble, elles ont vécu en paix ensemble pendant de longues années. Il y a toujours eu effectivement quelques enlèvements d'animaux, il y a eu quelques affrontements entre éleveurs et agriculteurs, mais ce n'est jamais arrivé à cette envergure-là. Peut-être lié effectivement au fait que la rébellion est passée par là, et certains ont pu effectivement s'infiltrer et trouver des armes plus mortelles, et les ont tournées malheureusement contre le frère. Bref, nous découvrirons. De façon générale, au Mali, la justice n'a pas été à hauteur d'attente. Mais dans le terroir traditionnel, et davantage en pays delta, en pays deltaïque, il y a beaucoup de choses à dire sur la justice, j'allais dire sur la gouvernance de façon générale.
Alors, je pense que Brema Eli Diko est en ligne cette fois-ci. Monsieur Diko, les deux sujets à la fin, nous les abordons. L'ouverture d'une enquête et les problèmes liés aux décisions judiciaires. Qu'est-ce que vous en dites?
Bon, moi je pense qu'une enquête judiciaire est toujours utile, c'est ce que j'appelle de tous mes voeux. Ce que les gens disent quand vous faites les enquêtes dans ces zones, si l'enquête est vraiment menée par une commission indépendante, hein, complètement indépendante de tout, hein, on peut fixer des responsabilités et ça peut permettre d'identifier qui est coupable, qui ne l'est pas et faire en sorte que, dans un contexte de crise, ne pas utiliser la justice conventionnelle. Bon, utiliser ce qu'on appelle de plus en plus la justice transitionnelle. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, c'est une justice qui... Voilà. Parce que la justice traditionnelle, pour la rendre, ça prend plusieurs années, les procès sont interminables. Bon, maintenant, sur la question des décisions de justice, quand vous faites des enquêtes, moi, j'étais revenu hier de Douanzan pour la même enquête de conflit éleveurs-agriculteurs. Mais les éleveurs vous disent, oui, en fait, la justice a toujours été rendue en notre défaveur. Qu'à chaque fois, on nous dit que les champs ne se déplacent pas et que la réalité que c'est faux parce que, du fait de la surpopulation, que les bourdons là, qui sont les couloirs de transhumance, ont été de plus en plus aménagés. Et finalement, même s'il y a des charges pastorales, elle n'est pas appliquée. En tout cas, eux, moi, ils ne sont pas au courant. Et ce qu'ils savent, c'est que les maires ont tout vendu à des étrangers ou autres et que finalement, ils sont obligés d'empiéter les champs pour pouvoir aller dans les anciennes zones de transhumance. Donc, les décisions de justice, ils pensent que ça a tout le temps été, en tout cas, rendu à leur défaveur. Bon, c'est leur propos. Du côté des agriculteurs, quand vous discutez avec eux, ils vont dire oui, ben, les peuples sont coupables parce que nous, nos champs sont toujours là. Bon, dans tous les cas, vrai ou faux, moi, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, il urge les procès qui sont en cours de faire en sorte que ces procès-là se terminent, que le verdict soit rendu. Les actions, ce qui s'est passé à Malimana, c'est l'apogée en fait de frustration. Normalement, l'État aurait dû prendre toutes les mesures de phénomène, mais malheureusement, à part quelques missions gouvernementales de discussion, ben, très peu de choses ont été faites. Et si on ne fait rien, la situation peut s'envenimer parce que j'ai dit que nous sommes dans un contexte de prolifération des armes. Beaucoup de bergers sont armés et Oumar Al-Gana a créé son mouvement, mouvement Association Nationale, je ne sais pas de quoi, enfin, pour la restauration de la justice. Ce qui est sûr, avec lui, il y a beaucoup de frustrés. Mais de la question de ce mouvement maintenant, on est en train de faire comme si c'était un épiphénomène. On n'a jamais cherché à discuter en tout cas avec lui. Ce qui a été fait, ça n'a pas, il n'y a pas une communication autour. Et je pense que s'il y a des gens comme ça qui se sont identifiés comme ennemis de l'armée malienne et qui peut tendre ou du moins défendre la cause des peuples qui sont frustrés, il faut chercher à les rencontrer, discuter avec eux pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que si on ne peut pas, d'autres pourront se joindre à lui et il faudrait que la justice soit rendue, que l'enquête là qu'on la fasse tout de suite, qu'on évite la bureaucratie malienne et qu'on diligente les choses et que ça soit dirigé par une commission indépendante, c'est tout. Parce que là, on verra que quelque part, l'État aussi a sa... ta part dans cette histoire.
C'est donc sur ces propos que s'achève le grand dialogue de ce lundi. Je rappelle que nos invités étaient au nom de trois Makan, Makan Doumbia, qui est le préfet de Ténéngou, était en ligne. Timouré Toulenta, le président de l'association des ressortissants de Ténéngou, était présent dans ce studio. Et Brima Eli Diko, que vous venez d'entendre, il est sociologue, était en ligne. À la mise en onde, il y avait Philippe Dambélé. Régie vidéo Gagné Kanté, à la réalisation Ibrahima H. Diallo, présentation Seydou Fomba. On se retrouve demain pour un autre sujet. À demain donc.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Dumondi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.